Vous êtes avec Radio SBS en français.
Je suis en ligne avec Ousmane Chouan, qui est économiste à l'Université de New South Wales. Bonjour Ousmane.
Bonjour Audrey.
Aujourd'hui, on parle d'emploi et de la difficulté parfois de trouver un boulot en Australie quand on vient d'ailleurs. Je crois que beaucoup de nos auditeurs vont pouvoir se reconnaître. Pourquoi c'est si difficile pour des immigrants, même s'ils sont qualifiés, de trouver un premier emploi en Australie?
En fait, il y a plusieurs facteurs qui influencent ce grand problème, mais moi, je me concentre aux problèmes qui sont structurels. Par exemple, une type de discrimination qui est subconsciente. Et là, il s'agit que lorsque vous faites votre demande, vous donnez votre résumé, les employeurs ont des biais comme tout le monde. Et lorsqu'ils regardent un nom qui est, par exemple, un nom féminin ou un nom qui est, entre guillemets, bizarre parce qu'il vient de l'étranger, ils vont le mettre à côté. Ils ne vont pas choisir. Et par conséquent, ils ne vont pas vraiment s'engager avec vos qualifications que vous mentionnez dans votre résumé. Ça, c'est un très grand problème dans plusieurs pays. On remarque, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, qu'il y a des grandes différences juste à cause de noms différents.
J'ai vu que vous avez écrit sur la possibilité d'avoir des CV sans le nom de la personne. Est-ce que ce serait une solution qui pourrait aider?
Précisément. Je m'intéresse beaucoup à cette solution parce que ça a déjà été employé dans plusieurs pays et ça a eu ça fait de changements positifs. Par exemple, au Canada, ça a été un grand débat cette année en 2016 qu'il transforme la culture subconsciente de racisme dans le service public. Donc, vous voyez par exemple qu'au Canada, les visible minorities sont à peu près 20% de la population, mais dans le service public, c'est moins que 15% de représentation. Et là, ils vont mettre des résumés à l'anonymat pour faciliter l'embauchement des gens. On remarque la même chose en Angleterre et maintenant un peu plus aux États-Unis aussi. Mais par exemple, dans le secteur privé, ça a déjà été implémenté depuis très longtemps et dans les universités aussi. Dans le secteur privé, par exemple, les orchestres que vous connaissez, là, ils ont maintenant un type d'audition pour les artistes. Ils font ça d'une façon là où vous ne pouvez pas apercevoir la personne qui joue, par exemple, son instrument. Et par conséquent, vous voyez une plus grande représentation des femmes et des minorités dans les orchestres, par exemple, le Toronto Philharmonic Orchestra et tout ça. C'est juste un exemple. Après, dans les universités, vous regardez que lorsque vous soumettez, par exemple, un journal prestigieux, vous n'allez jamais donner votre nom et vous n'allez jamais savoir le nom des gens qui ont sélectionné votre papier, votre article. Et de cette manière, vous regardez beaucoup plus de représentation dans les universités, des gens qui sont des minorités, par exemple. Et là, c'est l'idée qu'on veut transposer ici. J'avais suggéré qu'on fasse la même chose en Australie, dans le secteur public. Et maintenant, heureusement, il y a un changement positif. Donc, Australian Capital Territory, Victoria et Western Australia, ils sont déjà en train d'implémenter ça dans un trial phase. On va voir plutôt, par exemple, dans une année, ce que ça donne. Mais je suis optimiste à cet égard.
C'est intéressant, puis peut-être qu'ensuite ça va se rendre dans les autres États en Australie ensuite?
Oui, j'espère que oui, mais je pense que les autres États ici n'ont pas la même culture, disons, progressive. Ils attendent un peu les résultats de ces États avant de mettre quelque chose dans leurs États, même en trial phase, et ils vont voir. Mais vous savez que la plupart des gens qui viennent d'ailleurs, ou par exemple la plus grande pourcentage des gens qui travaillent dans le marché laboral, ils travaillent dans le secteur privé. Donc à la fin, j'aimerais une transformation dans le secteur privé, qu'ils ont des pratiques comme ça pour embaucher des gens avec des résumés, les soumissions de résumés à l'anonymat. Donc le secteur privé, ce sera le but le plus grand à la fin.
Et puis en dehors, bon, du nom, là, ce qui est assez évident quand les gens viennent d'ailleurs et qui sont des immigrants, est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Bon, des fois le manque d'expérience au pays aussi, j'imagine, qui entre en compte?
Absolument. La deuxième raison la plus grande pour rejeter quelqu'un est le manque d'expérience locale. Quand je dis quelqu'un qui vient d'ailleurs, des nouveaux arrivés, des immigrants, etc. C'est le manque d'expérience locale. Le problème avec ça est que nous vivons dans un monde qui est beaucoup plus globalisé. Et maintenant, les expériences qu'on peut atteindre en Outre-mer, dans d'autres pays, doivent être plus valorisées. Par exemple, dans les multinationales, par exemple, si vous travaillez dans un pays émergent, si vous travaillez dans un endroit qui est plus dynamique, un peu plus différent, ça pourrait vraiment aider dans l'apprentissage, tout d'abord, dans une nouvelle entreprise. Mais ça peut aider dans, par exemple, l'implémentation de nouvelles idées. Il faut que les gens se rendent compte que l'expérience locale a ses mérites, bien sûr, mais c'est beaucoup plus important d'avoir une mentalité globalisée à nos jours.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire du côté des employeurs, justement, pour les éduquer, pour leur faire comprendre la valeur des nouveaux arrivants, des gens qui ont une expérience de travail ailleurs?
Moi, je suggère que la première chose, la première étape, c'est de se rendre compte de nos préjugés qui sont intrinsèques, ils sont subconscients. Tout le monde en a, et dans tous les pays, hein, dans tous les marchés, dans toutes les économies. Il faut se rendre compte que nous sommes prédisposés à des présuppositions. Par rapport aux gens qui sont différents, c'est quelque chose de très rudimentaire. Et moi, je suggère qu'on se rende compte de ça et après construire la politique autour de ça, autour de faire une confrontation contre nos préjugés. Tout d'abord, c'est la reconnaissance et après, on peut avoir une politique. Donc, le secteur public, ça donne toujours un bon exemple. Après, ce sera les entreprises de haut prestige, qui, par exemple, les firmes de Big Four accounting firms, les consultoria, donc les consulting firms, eux, ils suivent après. En Angleterre, on remarque ça déjà parce que quand le gouvernement a implémenté ça, les Big Four accounting firms et les grandes entreprises financières, ils sont mis en coopération avec le gouvernement pour ça. Après, ce sera les entreprises de taille moyenne et les petites entreprises peu à peu. Donc, il y a une progression. C'est un peu le top-down. Ça commence avec les grands et ça rentre aux petits. Mais tout d'abord, il faut avoir une reconnaissance que ça existe. Un grand problème que je remarque à nos jours, c'est que les gens ne reconnaissent pas les biais qu'ils ont. Donc, on commence avec ça. Je vous donne un peu les chiffres. Donc, selon les études qu'on a fait en Australie, quelqu'un avec un nom, homme ou femme, avec un nom du Moyen-Orient, par exemple un nom musulman, doit envoyer à plus 60% de résumés, de curriculum vitae, de plus, pour avoir les mêmes réactions, le même nombre de réactions positives. Et quelqu'un avec un nom de l'Asie de l'Est, par exemple un nom japonais, un nom chinois, il doit travailler autant, c'est-à-dire 70% de plus de résumés envoyés pour recevoir les mêmes réponses positives, le même nombre de réponses positives. Au Canada, on avait fait la même chose et on avait remarqué en mettant un nom anglophone, Matthew, avec par rapport à un nom, c'était un nom arabe, je pense, c'était Samir. Et on a remarqué qu'il fallait travailler un peu plus, le même nombre, envoyer le même nombre de résumés, un peu plus de 60 ou 70% de plus de résumés. Donc vous voyez qu'il faut travailler double si on est différent. C'est à peu près ça. Et je vous donne aussi un exemple. On avait fait ça avec les avocats. Donc, on avait remarqué que lorsque une femme envoie son résumé, la réponse est beaucoup plus ou moins reçue d'une façon positive. Donc, les femmes sont rejetées plus souvent juste parce qu'elles ont un nom féminin. Donc, ça va changer à deux côtés, le côté racial, le côté de homme-femme.
C'est triste qu'on en soit encore là en 2016. Des fois, il y a certaines personnes qui ont l'impression que c'est plus un problème, mais on voit que c'est vraiment un problème assez majeur encore. On espère du moins peut-être qu'on pourra se reparler dans quelques années et puis que les chiffres aient changé.
Je suis d'accord avec vous et vous serez surprise par la progression rapide que ça a dans les orchestres, que ça a eu un impact après 5 ans. Dans les universités, c'était moins que 5 ans. Et dans le secteur public, j'espère que ce sera encore moins de temps.
Bon, ben au moins une petite bonne nouvelle au moins. Merci beaucoup, Ousmane.
Avec plaisir. Merci, Audrey.